Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à tous, midi 30 sur Europe 1, ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée.
Aujourd'hui, on nous empêche de la pratiquer. On veut juste dire au gouvernement, laissez-nous pratiquer notre foi.
Des catholiques qui manifestent contre l'interdiction des messes, rassemblement à Nantes, Bordeaux ce matin et à Lyon cet après-midi, interdit en revanche à Paris pour raisons sanitaires. Le porte-parole des évêques de France appelle les fidèles à la patience. La mobilisation des écrivains aussi pour la réouverture des librairies. Alexandre Jardin sur Europe 1 se dit prêt à payer les amendes des libraires qui bravent l'interdiction. Clément Beaune qui salue la coopération européenne alors que l'Agence européenne du médicament pourrait donner son feu vert à un premier vaccin contre le coronavirus très vite avec une distribution dès janvier. Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes qui était l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 ce matin. Les Bleus qui se rassurent avec leur victoire à 1-0 face au Portugal de Cristiano Ronaldo hier soir. Les voilà premiers de leur groupe de la Ligue des Nations. Et puis la météo avec le vent qui souffle déjà sur la Manche et 5 départements en vigilance orange du Nord-Pas-de-Calais au Finistère.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Il va falloir vivre avec le virus pour un temps long, voilà ce que disait hier Jean Castex dans le journal Le Monde, mais l'impatience semble grandir face aux restrictions. Après les commerçants dans la rue hier pour réclamer la réouverture de leurs magasins, notamment à Nice ou Marseille, ce sont des catholiques aujourd'hui qui, un peu partout en France, manifestent pour réclamer la célébration des messes, comme à Nantes où vous vous trouvez, Charles Guyard.
Oui, le rassemblement vient tout juste de se terminer. Il a duré une heure, le temps d'une messe. Et c'est justement cela que les quelques 300 personnes sont venues réclamer ce matin, malgré la pluie. La manifestation avait même reçu l'aval de la préfecture. 3 fourgons de CRS étaient d'ailleurs présents pour l'encadrer.
Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous sommes privés de ce droit d'assister à la messe pour le deuxième dimanche de suite.
De fait, il y a une semaine, un demi-millier de fidèles s'étaient déjà réunis devant la cathédrale de Nantes pour demander le droit de pouvoir retourner à l'église. La messe, un bien essentiel, fondamental même pour Pierre.
C'est extrêmement important parce que la messe est le sommet de notre foi chrétienne et aujourd'hui on nous empêche de la pratiquer. On veut juste dire au gouvernement, laissez-nous pratiquer notre foi.
Une pratique que tous jurent possible dans le respect des gestes barrières, comme le résume Jérôme Duchesne. Il est porte-parole du collectif pour la messe à Nantes.
Je pense que c'est vraiment possible et qu'on peut être un banc sur deux dans une église. Vous savez, dans une église, on est en prière et on ne se serre pas les mains. On n'échange pas, on est vraiment très fixe.
Et le collectif est formel. Si la situation ne s'arrange pas, il appellera alors à un nouveau rassemblement dès dimanche prochain à l'heure de la messe.
Charles Guyard à Nantes pour Europe 1. Rassemblement prévu à Lyon cet après-midi, place Bellecour. En revanche, manifestation interdite par la préfecture de police sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris ce soir pour des raisons sanitaires. Des rassemblements qui ne sont pas à l'initiative de l'église de France, qui invitent les fidèles à la patience et qui écoutez Vincent Némon, le porte-parole de la conférence des évêques de France.
Il faut dire à toutes ces personnes qui manifestent, en tout cas toutes celles qui le font véritablement parce que la messe leur manque, eh bien que ce cri qui est lancé, il est aussi entendu. Il y a juste un rappel pour que ce cri soit poussé dans un cadre légal, c'est ça, c'est important. Il est évident que les rassemblements non autorisés ne doivent pas se tenir. Nous ne sommes pas une religion frondeuse. L'Église catholique, l'institution Conférence des évêques de France, souhaite et veut montrer qu'elle respecte le droit et qu'avec le droit de notre État français, nous allons trouver les moyens de faire vivre le plus pleinement possible notre culte.
Alors, mobilisation des catholiques, on l'a entendu, mobilisation aussi des écrivains qui veulent, eux, qu'on rouvre les librairies. Et en attendant, certains, comme Alexandre Jardin sur Europe 1 ce matin, annoncent qu'ils paieront les amendes des libraires qui restent ouverts malgré l'interdiction, Diane Chenouda.
Oui, l'appel a été lancé ce matin sur notre antenne par Alexandre Jardin. En effet, un appel solennel de solidarité des écrivains avec les libraires.
Les écrivains français ont décidé hier, lorsqu'un libraire recevra un PV, une amende, les écrivains les paieront. Nous n'acceptons pas de vivre dans un pays... Mais de quoi on parle ? Je veux dire, que des flics débarquent pour faire fermer des librairies. Des flics, est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire en France en ce moment ?
Le premier d'entre eux à agir, c'est Didier Van Kovelaert, qui est parrain de la libraire de Cannes, qui a rouvert malgré l'interdiction et a été verbalisé. Il paiera l'amende de 135 euros.
Nous sommes le seul pays en Europe où les librairies sont fermées ou réduites au click and collect qui ne peut correspondre qu'à 10% du chiffre d'affaires, et où dans les grandes surfaces, il y a des bâches sur les livres, il y a des barrières comme sur une scène de crime, avec marqué culture interdite, c'est insupportable.
Même chose pour François de Closet, qui se dit prêt à payer un PV qui frapperait un libraire. Seul Éric Orsenna, lui, se dit légaliste, même s'il soutient bien sûr les librairies.
Diane Chenouda, et puis dernier témoignage de cette grogne face aux restrictions, des coiffeurs et des esthéticiennes qui continuent à travailler à domicile en toute illégalité. Le reportage de Jiane Bergaoui.
C'est grâce aux réseaux sociaux que Caroline tente de séduire de nouveaux clients. Épilation et manucure se font ensuite chez elle. Depuis 10 jours, cette esthéticienne diplômée a transformé son appartement de pièce en salon de beauté.
Je fais vraiment comme si j'étais en institut, en prenant toutes les précautions nécessaires. Je me suis limitée à 2 clientes par jour, maximum, afin vraiment d'être le plus en sécurité possible.
2 rendez-vous par jour aussi pour Fanny, coiffeuse à Marseille. Elle ne se rend que chez des clientes fidèles qui acceptent de la payer en liquide.
C'est un choix que j'ai fait, que je n'avais pas fait au premier confinement. Ben, je suis un peu hors la loi, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'au final, ça ne me dérange pas tant que ça, parce que là, je n'ai pas de salaire. Donc à un moment donné, il faut quand même essayer de se faire un petit peu d'argent.
Une transgression assumée par Nicolas. Lors du premier confinement, ce coiffeur parisien avait continué de travailler à domicile. Pas un seul contrôle en 2 mois. Alors il renouvelle l'expérience. Son matériel dans un sac à dos, il se déplace à vélo et honore jusqu'à 12 rendez-vous par jour.
J'ai même coiffé des policiers, des gendarmes, même des médecins. Hein. Pour vous dire la vérité, en 1 mois, je fais un salaire d'une année en fait.
En 1 mois, Nicolas touche environ 15 000 euros. Alors, contrairement à ses collègues qui travaillent en salon ou en institut, lui espère que le confinement se poursuivra en décembre.
Jiane Bergaoui. Et puis, notez qu'après la soirée clandestine dont on vous parlait dans le journal de la mi-journée hier, soirée qui avait réuni 300 personnes à Joinville-le-Pont, l'organisateur de la soirée et le propriétaire ont été placés en garde à vue. La police invite les participants à se faire tester car au moins un des convives est positif au coronavirus.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, l'Agence européenne des médicaments pourrait donner son feu vert très vite pour la distribution d'un vaccin contre le coronavirus dès ici la fin de l'année pour une distribution dès janvier.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
L'Agence européenne des médicaments pourrait donc donner très vite son feu vert pour un premier vaccin contre le coronavirus dès la fin de l'année pour une distribution en janvier. Déclaration hier du directeur de l'agence, Guido Rasi, qui ajoute que si tout se passe bien à la fin de 2021, nous aurons une immunisation suffisante. Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos ce matin. Il se félicite de la coopération européenne.
L'Union européenne a un contrat de 200 à 300 millions de doses, donc c'est considérable, c'est une large partie de la population européenne, pour ce vaccin. Les doses de Pfizer et de BioNTech, nous les paierons très vraisemblablement à un prix inférieur à celui qu'a négocié l'agence américaine. Donc l'Union l'a aussi fait la force, parce que quand vous négociez d'un coup 200, 300 ou 400 millions de doses, comme l'Union européenne le fait pour chaque contrat, vous avez un prix de revient inférieur. Mais on a pour la première fois, et seulement en quelques mois, une Europe de la santé très concrète qui, pour le vaccin, voit le jour.
Clément Beaune, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin. Notez que dans quelques minutes, je reçois la sociologue Marie Durubella. Nous parlerons avec elle de ces 6 mois depuis le confinement où l'école fait face à un défi totalement inédit avec la crise sanitaire. On verra quel impact ça peut avoir sur le niveau des élèves avec les premières évaluations qui ont été rendues publiques en début de semaine. Une policière grièvement blessée en région parisienne cette nuit aux Ulis dans l'Essonne, percutée par une voiture alors qu'elle sortait d'un camp des gens du voyage où des fonctionnaires intervenaient pour régler un différend. Elle a été hospitalisée pour un traumatisme crânien, de multiples fractures, mais ses jours ne sont pas en danger.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
L'actualité sportive et les Bleus qui se sont rassurés hier soir à Lisbonne. Victoire 1-0 face au Portugal de Cristiano Ronaldo avec un but de N'Golo Kanté et forcément un sélectionneur ravi, Didier Deschamps, de retrouver ses tauliers en pleine forme.
Une grande satisfaction, même si j'avais pas de doute, puisque je les prends, je sais à qui j'ai affaire, je les connais bien. Sur le plan humain, leur fierté, leur orgueil et puis la capacité qu'ils ont. Après, ils peuvent, les uns et les autres, être un peu moins bien, mais ils sont attachés au maillot de l'équipe de France et l'équipe de France a réalisé une très grosse performance ce soir.
Didier Deschamps avec Cyril Delamorinerie et en Formule 1, Lewis Hamilton près d'être sacré champion de Formule 1 puisque se court actuellement le Grand Prix de Turquie. Et puis ça y est, le secrétariat du Père Noël est ouvert à Libourne. Il attend vos lettres, il suffit d'écrire Père Noël sur l'enveloppe et au dos votre adresse. Il vous répondra si vous envoyez votre lettre d'ici le 15 décembre. Et cette année, vous allez l'entendre, les enfants ne veulent pas que des jouets, Stéphane Place. L'épidémie est passée par là.
Sur la tête des lutins de la Poste, ici à Libourne, un bonnet vert avec un pompon blanc, mais aussi sur le visage de ses employés qui ouvrent le courrier. Un masque de protection, sans oublier le gel hydroalcoolique à portée de main. Le secrétariat du Père Noël n'échappe pas à la crise sanitaire et les milliers de lettres qui arrivent quotidiennement confirment son impact sur les enfants. Dans environ un courrier sur trois, ils ne parlent pas seulement des jouets qu'ils espèrent découvrir sous le sapin, mais aussi de l'épidémie et du confinement, comme le constatent Anne, Aurélie et Jamila.
Il y a beaucoup d'enfants qui se tracassent pour le Père Noël en lui disant de bien porter son masque. Là, j'ai une lettre d'un petit qui met « Lave-toi bien les mains avant de venir à la maison ». On sent que c'est quand même une préoccupation pour ces enfants-là.
Père Noël, j'espère que tu ne seras pas malade, que tes lutins ne seront pas confinés. Des enfants qui pensent aux adultes, aider ma maman dans son travail, ou « j'aimerais retourner voir ma grand-mère que je n'ai pas vue depuis longtemps ». Vous voyez, il y a des choses comme ça dans les lettres.
Les enfants demandent beaucoup la fin du confinement et un vaccin. Il y a un enfant d'ailleurs qui a pas demandé de cadeau, il a demandé la fin du Covid.
Aux enfants comme aux adultes écrivant au Père Noël avant le 17 décembre, la Poste envoie systématiquement une réponse, une jolie lettre colorée et chaleureuse. Libourne, Stéphane Place, Europe 1.
Et voilà, cet secrétariat du Père Noël qui est donc ouvert. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche et ça souffle fort du côté de la Manche. Valérie Darmon, déjà 5 départements en vigilance orange.
Absolument Fabienne, oh que oui, ça décoiffe tous les départements le long de la Manche. Finistère, Manche, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme sont en alerte vague submersion parce que nous sommes dans une configuration de forte marée à cause aussi du passage de cette perturbation active avec les pluies battantes, des coups de vent sur l'ensemble du pays. Ce n'est pas exceptionnel pour une mi-novembre. Alors les rafales atteignent jusqu'à 100 km/h sur les caps exposés de la Bretagne à la côte d'Opale, localement 110, 70 à 80 dans les terres, jusque sur la région parisienne. Et les coefficients de marée avoisinent tout de même les 109 pour ce soir. Alors attention, soyez prudents, de grosses vagues déferlent sur les fronts de mer. Côté ciel, de toute façon, c'est gris quasi partout, du Poitou-Charentes, du nord de l'estuaire de la Gironde aux Hauts-de-France, en passant donc par la région parisienne qui se couvre de plus en plus, avec de bonnes pluies soutenues attendues cet après-midi et un vent déjà soutenu depuis ce matin. Les pluies s'éloignent vers l'est, les éclaircies tentent un retour par l'ouest en fin de journée, tandis que la perturbation, on va la retrouver sur la façade d'est de la France. Les maximales restent douces malgré tout dans ce contexte, avec un ressenti automnal, il faut le dire, entre 12 à Embrun et 22 à Tarbes pour cet après-midi.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, quel impact le confinement et les cours à distance pour une partie des lycéens vont-ils avoir sur le niveau des élèves ? Début de réponse cette semaine avec les résultats des évaluations faites en septembre en primaire et au collège qui montrent qu'il y a bien eu un effet Covid. Faut-il s'en inquiéter ? Comment l'école fait face à ce défi totalement inédit de la crise sanitaire ? Je reçois dans un instant Marie Durubella, sociologue, observatrice éclairée depuis des années du monde de l'éducation qui vient de coécrire « L'école peut-elle sauver la démocratie ?»
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
6 mois que l'école fait face à un défi totalement inédit avec la crise de la Covid-19 et on commence à en mesurer l'impact sur le niveau des élèves avec les résultats des évaluations de septembre qui montrent que le confinement de mars-avril a pesé sur les résultats des CPCE1 en français et en maths et aussi creusé les écarts entre les élèves des zones d'éducation prioritaires et les autres. Bonjour Marie Durubella.
Bonjour.
Sociologue spécialiste des questions d'éducation, vous avez publié à la rentrée « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» avec François Dubet. Vous observez, vous questionnez depuis des années cette école et son rôle aussi pour réduire les inégalités. Ça vous inquiète, ces résultats, cet effet Covid que l'on note sur ces évaluations, vous qui dites que tout se joue dans les petites classes ?
C'est effectivement inquiétant, c'est pas étonnant. C'est-à-dire, si on n'apprenait rien à l'école,
Voilà, là, on observe qu'ils n'ont pas été à l'école pendant près de 2 mois. Les élèves en ont pâti, et les élèves en ont pâti plus ou moins. Ce que montrent bien ces observations, c'est que c'est surtout les élèves les plus faibles qui ont pâti de l'absence d'école, enfin de l'absence ou d'une école à la maison en tout cas, les élèves les plus faibles, qui se trouvent aussi être les élèves de certains quartiers, des quartiers défavorisés. Et donc, le confinement a creusé, inévitablement, les écarts de performance entre les élèves.
Est-ce que ce serait imaginable, et c'est pour ça, j'imagine, que ça ne l'est pas pour vous, que les enfants ne puissent plus aller à l'école de nouveau? On a vu que Jean-Michel Blanquer était le premier à militer pour que, bien évidemment, les enfants continuent à aller à l'école. Quand on voit ces résultats, c'est indispensable.
Mais c'est effectivement indispensable. C'est-à-dire que même si l'école constitue, alors pas tellement pour les plus jeunes, un milieu où on prend des risques, les parents savent bien que la vie est pleine de risques. Et donc, je pense qu'il faut courir les légers risques inhérents à l'école, parce qu'on apprend des tas de choses à l'école. Et cette observation le montre bien. Il montre qu'on apprend moins quand on n'y va pas. Et puis, ce qu'elle ne montre pas, mais ce qu'on sait par d'autres sources, c'est que les élèves en souffrent de ne pas aller à l'école. Ils en souffrent de ne pas être confrontés à d'autres adultes que leurs parents, et surtout à leurs camarades. On apprend aussi avec ses camarades, on se motive avec ses camarades, et sur le plan psychologique, ne pas aller à l'école, c'est aussi un problème.
Parce que l'école, vous le dites bien, Marie Durubella, ce n'est pas uniquement un lieu d'apprentissage, c'est aussi un lieu de socialisation où on
Exactement,
rencontre les autres.
Oui. Oui, on compte sur l'école pour que les élèves soient confrontés à d'autres vues, d'autres opinions, d'autres façons de parler, d'autres façons d'être. C'est comme ça qu'on éduque les élèves. Historiquement, l'école a été créée pour former des petits citoyens. Et donc, ce n'est pas en restant chez soi, chacun dans son coin, qu'on va devenir un petit citoyen. Donc, on voit bien avec toute l'actualité combien cet aspect-là de la scolarisation est important.
Alors, les écoles primaires restent ouvertes, les collèges restent ouverts. Pour les lycées, il va y avoir des cours en distanciel avec une pratique qui va varier suivant les lycées. Mais en gros, le ministre a dit qu'il faut qu'au moins 50% des cours se fassent dans la classe. Est-ce que ça suffit ?
On peut toujours dire que c'est moins bien que s'il y avait 100%. Alors après, au niveau du lycée et ensuite l'université, où là, théoriquement, tout va être à distance, on peut espérer que les élèves sont plus autonomes et qu'ils vont être capables de travailler mieux, enfin un peu mieux que les petits tout seuls. D'ailleurs, on a vu que les lycéens s'étaient souvent mis en réseau eux-mêmes avec des copains pour s'entraider. Donc, sans doute, c'est moins dommageable aux élèves que pour les élèves de primaire ou de collège. Alors après, ce qui est intéressant d'observer, c'est que l'éducation nationale, dont on dit tout le temps qu'elle est centralisée, hyper centralisée, eh bien, il est prévu que les chefs d'établissement ou les préfets, enfin, ou que dans les régions, on puisse adapter les règles nationales au contexte local. Bon, ça, je ne pense pas qu'on puisse le critiquer. Je veux dire, on a assez dénoncé la centralisation de notre pays.
Mais c'est quoi la bonne pratique? C'est un jour sur deux, une semaine sur deux? Est-ce qu'il y a des cours dont on ne peut même pas envisager qu'ils se fassent à distance sans avoir un prof devant les élèves? Je pense par exemple au français, ou je pense par exemple où il y a peut-être besoin d'un échange à l'oral justement avec le professeur.
De toute façon, ça ne sera jamais aussi bien qu'une situation normale, entre guillemets. Ce ne sera jamais aussi bien. Alors après, il faut laisser aux équipes pédagogiques, que ce soit les chefs d'établissement et le casse-tête des emplois du temps, qui est extrêmement compliqué au lycée, notamment depuis la dernière réforme. Et puis les enseignants eux-mêmes peuvent aussi, entre eux, décider ce qui va être le plus nécessaire, si on peut dire, pour les élèves. Je pense que ça serait prétentieux, notamment de la part d'une chercheuse, de vouloir édicter des règles. Il faut faire confiance un peu aux professionnels.
Je dis ça, Marie Durubella, là, parce que certains lycées ont mis en place justement un fonctionnement où une semaine sur deux, les élèves iront en cours au lycée ou resteront chez eux. Mais certains restent à 100% pour des cours au lycée et ils ont juste aménagé la cantine pour éviter le brassage des élèves et les risques de contamination. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, et c'est ce qu'ont dit certains chefs d'établissement, qu'il y a un manque d'équité, que ceux qui ont cours tout le temps en classe soient plus avantagés au moment des épreuves du bac, par exemple?
De toute façon, l'équité parfaite, elle n'existe pas. On sait bien, on le découvre chaque année au moment des résultats des examens, qu'il y a des établissements qui sont moins bien dotés que d'autres, qui sont dans des contextes sociaux plus difficiles. Donc, on sait qu'il n'y a pas une équité parfaite. Mais là encore, les enseignants le savent bien. Les enseignants qui sont sur place voient bien s'ils ont affaire à un public favorisé ou défavorisé. Il est certain que si le public est plutôt défavorisé, les élèves vont être moins bien équipés en ordinateur, tout simplement. Hein. On a l'impression aujourd'hui que tout le monde a un ordinateur. C'est pas vrai. Hein. Un Français sur cinq n'en a pas. Donc c'est beaucoup et bien plus dans les milieux populaires. On sait aussi qu'au niveau du lycée en particulier, les parents sont plus ou moins capables d'aider leurs enfants selon leur niveau personnel d'éducation. Hein. Vous savez, même au niveau du lycée, la moitié des mères diplômées du supérieur dit qu'elles n'arrivent pas à suivre le travail de son enfant. Donc on imagine bien qu'au niveau du lycée, les inégalités sociales dans la capacité des parents à aider leurs enfants vont être encore plus importantes qu'au niveau du primaire. Mais, disons, les enseignants le savent et on peut leur faire confiance. Ils vont essayer de s'adapter au mieux.
J'entends votre confiance, Marie de Rubella, par rapport aux enseignants, mais quand même, c'est un vrai défi totalement inédit qui peut s'inscrire dans la durée auquel doit faire face l'école, les enseignants, les élèves. Qu'est-ce qui vous surprend justement dans cette crise sanitaire, dans cette capacité à continuer à cet apprentissage ?
Ce qui peut apparaître surprenant pour un observateur, disons, pessimiste, c'est que finalement, le système s'adapte. Parce qu'on a assez dit que c'est un mammouth incapable d'évoluer. Hein. Eh bien, là, les gens sur le terrain font au mieux, parce que tout le monde a compris que c'est un enjeu fantastique, l'éducation, d'autant plus qu'on s'inscrit dans la durée. Alors, ce qu'il faut simplement bien avoir en tête, c'est que continuer à assurer une certaine continuité pédagogique, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. On ne va pas être quitte comme ça envers les jeunes. Les jeunes ne sont pas que des élèves. Ils auront besoin de se retrouver, de parler dans la longue durée. Donc on ne peut pas oublier hein, que c'est un pis-aller quand même, même si ça donne des satisfactions à tout le monde.
Alors il y a aussi le port du masque qui ne facilite pas forcément la prise de parole en cours. Maintenant, c'est aussi décisant.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est ennuyeux, notamment pour les élèves qui apprennent à lire. Hein. Et d'ailleurs, on a vu dans les évaluations qui ont été passées par en CE1, donc les petits CP de l'an dernier, hein, que la lecture à voix haute, par exemple, hein, a été pénalisée. Hein. Et ça, c'est tout à fait typique de ce qu'on va faire plus difficilement avec un masque sur la bouche. Donc, il y a des choses qui vont se faire moins bien. Alors après, il faudrait essayer de les rattraper. Il y a sans doute des choses qui sont rattrapables, hein, soit avec des stages, soit en modifiant l'équilibre entre les différents cours ultérieurement. Enfin, il faut l'observer, l'évaluer, hein, précisément, et essayer de le rattraper.
Je terminerai avec ça. On ne vous sent pas particulièrement inquiète, justement, par quand même cet apprentissage qui fait que les parents se disent « Oh là là, le niveau va baisser, il y a des apprentissages qui ne vont pas se faire, on va savoir moins lire, il y aura peut-être de moins bons résultats. » Parce qu'il ne faut pas qu'on se focalise uniquement là-dessus, justement, sur le bulletin de notes.
Ouais, non, il faut pas se focaliser uniquement là-dessus. C'est-à-dire, on le voit bien avec les évaluations de sixième. Les évaluations des petits sixièmes n'ont pas trop baissé parce que justement, quand on fait le point en sixième, ils ont eu 5 ans de scolarité obligatoire avant, donc ils ont appris, ils ont répété, on répète beaucoup hein, dans les programmes et finalement, ça s'est amorti. Hein, ces 2 mois en moins ont été relativement amortis par rapport à 5 ans de scolarité. Donc on peut faire le même raisonnement au niveau du lycée. Au niveau du lycée, ils ont une longue carrière scolaire derrière eux. Et il y aura certainement des lacunes, mais on peut
si on finit pas le programme, c'est pas grave en fait.
Moi, je pense que les programmes, c'est pas ça qui va poser problème dans la vie. Peut-être qu'il se posera plus le problème, c'est si des élèves se sont mis en retrait de l'école, se sont isolés. Ça, je pense que les effets psychologiques sont peut-être plus importants que les effets purement scolaires.
Merci beaucoup Marie de Rubella, sociologue spécialiste des questions d'éducation, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez publié à la rentrée « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» On voit combien cette école est importante et qu'elle est bien autre chose qu'un lieu d'apprentissage, un lieu de socialisation pour les élèves. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Et puis vous le savez, on poursuit cette tranche d'information en ouvrant à 13h les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie, au programme aujourd'hui.
Bonjour Fabienne. On a recueilli notamment des témoignages très forts de femmes polonaises, très mobilisées depuis plusieurs semaines contre une nouvelle décision juridique limitant encore un peu plus leur droit à avoir recours à une IVG, une interruption volontaire de grossesse. C'est d'autant plus intéressant et important que derrière ce combat-là, c'est vraiment un choix de société plus large qui est en jeu en Pologne.
Merci Sophie et à tout de suite.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.